12h30 à Paris, une heure de moins en temps universel.
RFI Midi, Clotilde Dumay.
Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour RFI Midi. On est ensemble pour les deux prochaines heures. Tour du monde, de l'actualité avec nos correspondants, nos invités, nos reportages, nos chroniques. On va d'abord parler de ces nouvelles discussions en cours entre Washington et Moscou, toujours en vue d'une éventuelle trêve en Ukraine. Que faut-il en attendre alors que les combats et les frappes se poursuivent? On entendra aussi le témoignage de ce soldat ukrainien détenu en Russie pendant presque 2 ans.
L'accueil était amusant. Les gardiens formaient une haie avec aussi des chiens. On devait marcher, courber, les mains gelées. Et en chemin, on se prenait de tout. Des coups, des décharges électriques, tout. Certains se faisaient même mordre par les chiens.
Un témoignage à écouter dans un peu moins d'une heure. Juste avant, on évoquera la situation politique en Israël. Sur fond de guerre dans la bande de Gaza, le gouvernement a limogé le chef de la sécurité intérieure et prévoit d'en faire autant pour la procureure de l'État. Alors peut-on parler d'une dérive autoritaire de Benjamin Netanyahou? Le Premier ministre est-il en sursis? Jusqu'à quel point cela divise la population? Analyse à suivre avec Alain Dikoff, directeur du Centre de recherche internationale à Sciences Po, spécialiste de l'État d'Israël. Ce sera vers 12h15 temps universel.
RFI Midi.
Dans une heure, Afrique Midi avec entre autres un bilan de la première année de Bassirou Diomaye Faye, 1 an jour pour jour après son arrivée au pouvoir au Sénégal. Et puis l'actualité sur le continent américain à partir de 13h, temps universel, avec une interview du nouveau recteur de l'Université d'État d'Haïti qui n'est évidemment pas épargné par l'insécurité qui gangrène le pays. Et ce reportage aussi à Miami auprès des migrants légaux et illégaux en danger face à la politique de Donald Trump. Voilà pour le programme. Les discussions ont donc débuté ce matin dans un luxueux hôtel de Riyad. Des émissaires russes et américains se retrouvent en Arabie Saoudite pour poursuivre les négociations sur une éventuelle trêve, même partielle, en Ukraine. L'émissaire de Donald Trump s'est montré très optimiste. Steve Witkoff dit s'attendre à de vrais progrès. Du côté de Moscou, en revanche, on tempère beaucoup plus. On s'attend à des négociations difficiles. Le Kremlin qui a envoyé pour l'occasion à Anissa El-Jabri 2 spécialistes chevronnés.
Le porte-parole du Kremlin les appelle les meilleurs négociateurs de la Russie. Le diplomate et le sénateur Grigori Karassine, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, impliqué directement dans la rédaction des accords de Minsk 1 et Minsk 2 en 2014 puis 2015, soit la longue mise en place du processus de surveillance du conflit après la déstabilisation du Donbass et l'établissement de 2 zones baptisées République de Donetsk et de Lugansk, 2 zones sous influence de Moscou. L'autre figure bien connue, c'est Sergueï Beseda, aujourd'hui conseiller du directeur du FSB, les services de sécurité intérieure. Ce général en a longtemps dirigé un des départements, le 5e service. C'est celui qui a justement, entre autres, en charge la collecte de renseignements dans les pays de l'ex-Union soviétique et donc l'Ukraine. Sanctionné par les États-Unis, l'Union européenne, le Canada et le Royaume-Uni depuis 2014, Sergueï Beseda était encore aux manettes quand Vladimir Poutine a lancé ce qu'il appelle toujours une opération spéciale. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Et avant de discuter avec les Russes, les émissaires américains ont justement échangé avec les Ukrainiens, discussion productive selon le ministre de la Défense. Alors que les frappes se sont poursuivies cette nuit dans les régions de Kharkiv, Zaporijjia et Kiev, où l'on observe les pourparlers avec beaucoup plus de réserves, comme cette habitante Tetiana Polishchuk, qui espère surtout que son pays ne va pas se diviser.
Ce qui m'inquiète le plus dans ces appels entre Poutine, Trump et Zelensky, c'est que les Ukrainiens risquent de se diviser. Certains veulent la paix et pensent que le cessez-le-feu serait la meilleure solution. D'autres veulent se battre jusqu'au bout pour l'indépendance de l'Ukraine. Dans les négociations à venir, l'essentiel est que notre peuple reste uni. Si les Ukrainiens sont unis, Zelensky le ressentira et défendra mieux la position de l'Ukraine dans ses pourparlers.
Наполягати на тому, щоб Україна була максимально суб'єктом в цих перемовинах.
Un témoignage recueilli par Christina Petkova. On reviendra évidemment sur ces négociations en cours dans nos prochains journaux sur RFI.
RFI, l'Europe à midi.
La situation se tend en Turquie après le placement en détention du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Les manifestations de protestation se poursuivent en dépit des interdictions des autorités. Ce matin, 10 journalistes qui ont couvert ces manifestations ont été interpellés à leur domicile à Istanbul et à Izmir. Bonjour Anastasia Bekio.
Bonjour.
Alors hier, un tribunal a donc placé Ekrem İmamoğlu en détention provisoire. Quelles sont les charges retenues contre lui ?
Alors lorsqu'il a été placé en garde à vue la semaine dernière, Ekrem İmamoğlu était accusé de corruption et de terrorisme. Finalement, le juge qui a ordonné son placement en détention n'a retenu que la première charge. La conséquence, c'est que même si lui a été suspendu de ses fonctions, la mairie d'Istanbul reste encore aux mains de l'opposition du CHP. De sa prison, dans un message transmis par ses avocats, Ekrem İmamoğlu a dénoncé une exécution sans procès. Il a appelé la nation à lutter, a dit qu'il ne reculerait pas d'un pouce.
Et quels sont ses moyens d'action d'un point de vue judiciaire ?
Ils sont limités. Ses avocats ont annoncé qu'ils feraient appel, mais le système judiciaire turc n'a pas vraiment d'autonomie. Le président et son parti, l'AKP, vont tout faire pour ne pas voir leur pouvoir menacé. Dans le passé, Ekrem İmamoğlu a déjà eu des ennuis judiciaires. En décembre 2022, par exemple, il a été condamné à 7 mois et 15 jours de prison, assorti d'une interdiction politique. Il avait fait appel et la peine avait été suspendue. Par ailleurs, la semaine dernière, son diplôme universitaire a été annulé, ce qui le rend inéligible pour les élections présidentielles à venir.
Et malgré tout, son parti l'a tout de même officiellement investi candidat pour la présidentielle de 2028.
Oui, un geste surtout à forte valeur symbolique. La direction du CHP a décidé de maintenir cette primaire au sein du parti en signe de solidarité. Hier, la mobilisation a été telle que les opérations de vote ont dû être prolongées de plus de 3 heures et des bulletins ont même dû être réimprimés. Ekrem İmamoğlu est en route vers la prison, mais il est aussi en route vers la présidence, a lancé Özgür Özel, le chef du CHP, un sentiment que partage le politologue Ahmed İnsel, interrogé par Romain Lemaresquier.
Ce type d'acharnement du gouvernement rend la personne encore plus populaire. Donc du coup, je crois qu'aujourd'hui, Tayyip Erdoğan a vraiment créé son rival. Même depuis la prison, İmamoğlu peut continuer à peser massivement sur les prochaines évolutions politiques.
Alors pour le moment, Anastasia, les mobilisations de soutien en tout cas au maire d'Istanbul et à d'autres maires d'opposition qui subissent à peu près le même sort se poursuivent. Est-ce que la rue peut peser ?
Pas dans l'immédiat en tout cas. Les autorités turques ont l'air d'aller au bras de fer avec les manifestants, avec ce matin, vous l'avez dit, ces arrestations de journalistes et photographes qui couvrent la mobilisation. Hier soir, le réseau social X a annoncé que les autorités turques avaient demandé le blocage de plus de 700 comptes. Recep Tayyip Erdoğan a lui juré de ne pas céder, je cite, face à la terreur de la rue. Depuis l'arrestation du maire d'Istanbul mercredi dernier, la police a déjà arrêté plus de 1100 personnes.
Les explications d'Anastasia Bekio. À l'instant, l'Union européenne exhorte la Turquie à respecter les valeurs démocratiques.
RFI Midi, Clotilde Dumay.
Il est midi 38 à Paris, 2 heures de plus à Istanbul. Un coup d'œil à la presse européenne en ce lundi 24 mars 2025. En dehors des négociations russo-américaines sur la guerre en Ukraine qu'on a évoquée à l'instant et de l'actualité en Turquie, eh bien plusieurs articles reviennent aussi sur la visite au Groenland prévue cette semaine de l'épouse du vice-président américain Usha Vance, qui sera accompagnée notamment du conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Mike Waltz. La deuxième dame des États-Unis doit notamment visiter des sites historiques, assister à une course nationale de chiens de traîneau, visite largement critiquée par le Premier ministre du Groenland qui y voit dans les colonnes de Sermitsiaq une démonstration de puissance et un signal sans équivoque de la part de Washington, alors que Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises qu'il souhaitait annexer ce territoire autonome rattaché au Danemark. Dans une interview à l'hebdomadaire groenlandais, Mutte Egede appelle les alliés occidentaux à apporter clairement et distinctement leur soutien et leur appui au Groenland. Et puis à Rome, la Repubblica revient de son côté largement sur la fin de l'hospitalisation du pape François pour une double pneumonie. Que vous soyez croyant ou non, cela vous intéresse, assure le quotidien italien, puisque la mort de ce pape et sa succession imprévisible auraient pu changer le cours de l'histoire à une époque où dans le monde, même le mouvement d'une simple pièce peut faire s'effondrer un équilibre déjà fragile. Le pape François qui va tout de même devoir adapter son agenda, précise la Repubblica, puisqu'il doit limiter les contacts contact, rester confiné autant que possible. L'équilibre sera difficile à trouver pour lui entre les indications médicales et son instinct pastoral, analyse encore le journal italien qui estime tout de même que le pape ne devrait pas assurer son voyage en Turquie prévu fin mai.
RFI, l'Europe à midi.
Et puis l'actualité, c'est aussi du football, puisqu'on connaît le dernier carré de la Ligue des Nations. Et la France en fera donc partie. Les Bleus ont finalement renversé la Croatie hier soir. Battus 2-0 à l'aller, ils se sont imposés sur le même score au match retour au Stade de France, dans une ambiance des grands soirs. Et au bout du suspense, puisqu'il a fallu attendre la séance de tir au but pour départager les deux équipes, le gardien français Mike Maignan en a arrêté deux avant le dernier tir, Victor Missistrano, celui de la victoire.
La délivrance est venue du cinquième et dernier tir au but converti par Dayo Upamecano. Longtemps que le Stade de France n'avait pas vibré comme ça pour ces Bleus du football.
C'était comme une finale, quoi, à la fin. C'était vraiment cardiaque, mais on a réussi à se qualifier, c'est l'essentiel. Vraiment bravo pour ce soir, l'équipe de France.
Il était incroyable, ce match. Et heureusement, on a gagné.
Ce match était exceptionnel. C'était un match incroyable.
Ça a fait super plaisir, la victoire, franchement. En plus, au tir au but, ça veut dire que ça a été dur.
Car les Français devaient rattraper ce retard de 2 buts après l'affligeante défaite du match aller en Croatie. Ils y sont parvenus en seconde mi-temps grâce au premier but en sélection du jeune Michael Olise sur coup franc direct. Et c'est le Parisien Ousmane Dembélé, l'homme à qui tout réussit en 2025, qui a doublé la mise. Mission accomplie pour l'un des cadres du vestiaire, le milieu Aurélien Tchouaméni.
Comme je l'ai dit hier, on avait à cœur de monter un autre visage et d'emballer le match devant nos supporters. On est en train de grandir tous ensemble et ce genre de match, ça peut nous servir de match référence. Donc évidemment qu'on se souviendra de ce match pendant pas mal de temps.
Un match qui envoie la France dans le dernier carré de cette Ligue des Nations pour la revanche d'une autre demi-finale, celle de l'Euro 2024, perdue face à l'Espagne.
Et on en reparlera aussi dans le journal des sports dans environ une demi-heure. L'autre demi-finale, en tout cas, se jouera entre l'Allemagne, qui a été tombeuse de l'Italie, et le Portugal, vainqueur du Danemark.
RFI Midi.
Allez, plongeons dans les océans à présent, où la quantité de matière plastique pourrait être supérieure, d'après certains scientifiques, à celle des poissons d'ici à 2050. Alors à Brest, dans l'ouest de la France, le fonds Océanopolis Act organise chaque année une collecte citoyenne de déchets pour sensibiliser les habitants à la préservation des océans. La prochaine est prévue samedi et Olivier Favier a assisté aux préparatifs.
Nous sommes sur la plage du Moulin Blanc, un lieu de villégiature apprécié des Brestois. C'est aussi le principal point de rendez-vous de la collecte. Christelle Carfrantan, directrice d'Océanopolis Axe, explique d'où viennent les déchets qui seront ramassés.
Les déchets viennent beaucoup plus loin, même, je dirais. Ça peut venir suite aux tempêtes. Il y a des déchets qui arrivent naturellement par le vent dans la mer. Il peut y avoir aussi des déchets qui sont déposés par des personnes qui sont malveillantes et qui effectivement déposent leurs batteries, leurs pneus ou autres. Ça peut être également des déchets qui viennent de la rivière, puisque là, en venant du Moulin Blanc, nous avons la rivière qui se déverse dans la mer. Il faut se rappeler quand même qu'il y a plus de 80% des déchets qu'on retrouve dans la mer qui viennent de la terre. Donc naturellement, nous tous, citoyens, terriens, on a une action possible pour éviter que ces déchets de nos activités humaines ne soient déversés dans la mer.
Ce jour-là, canettes, bouteilles et sacs poubelles sont fort heureusement absents. Flâneurs et flâneuses du bord de plage pourraient très bien passer à côté de la pollution plastique. Mais il suffit de fouiller la laisse de mer, ce dépôt que l'océan abandonne derrière lui en se retirant, pour découvrir rapidement une quantité impressionnante de petits déchets. Tristan Attin est responsable de médiation et culture scientifique.
C'est vrai que souvent, c'est une des remarques du public quand on commence la collecte. Ils s'attendent à voir des gros déchets partout. Mais en gros, quand on arrive sur la plage, on se dit « Oh, il y a plein de choses à ramasser ». Au début, souvent, ils se disent « Ben non, finalement, ça a l'air propre ». Mais justement, c'est là, ces types de collectes, ça permet d'aller regarder un peu plus dans le détail. Et quand on se penche dans cette fameuse laisse de mer, ben finalement, assez vite, on va voir qu'au milieu de ces algues, il y a des choses qui s'y cachent. Comme là, par exemple, j'ai trouvé assez rapidement un petit morceau de filet de pêche, donc un type de pollution. Aussi, ici, un filament en plastique. Alors, ça peut venir de différentes sources, aussi bien activité aquacole ou encore justement emballage alimentaire. Et donc vraiment, ça va permettre au public comme ça de voir ces petits déchets devant lesquels on passe finalement quand on se balade, on n'y fait pas attention. Alors c'est vrai que cette pollution elle est moins visible, et pourtant les scientifiques montrent bien justement que même si elle est quasiment invisible, cette pollution elle a bien un impact réel et concret sur les organismes marins. Rien qu'ici de la rade de Brest, il y a des études qui ont été menées par exemple sur les huîtres ou sur certaines espèces de poissons.
Parmi ces petits déchets, les bouts de ficelle verte sont malheureusement fréquents sur tous les littoraux. Une étude de 2022 a montré que 16 millions de kilomètres de lignes de pêche sont perdus chaque année par les navires. Avec cela, on pourrait faire près de 400 fois le tour de la Terre.
On estime que ces morceaux de filet, les scientifiques estiment qu'il faut 600 ans pour qu'ils se dégradent totalement dans l'environnement marin. Et là aussi, il y a des entreprises, par exemple, qui agissent où ils se disaient ben voilà, les filets de pêche, ils sont utilisés que quelques mois. Pourtant, ils pourraient... dans l'océan, ils dureraient pendant 600 ans. Quand ils sont trop abîmés, ces entreprises récoltent ces filets de pêche et en font, par exemple, en les refondant, des armatures de lunettes ou des armatures de montres.
Chacun d'entre nous peut contribuer à la dépollution des plages en ramassant ce qu'il trouve autour de lui. Mais tous les déchets ne sont pas forcément recyclables.
La plupart des déchets finalement qu'on va pouvoir trouver sur les plages, malheureusement, ils ont été souillés par l'eau de mer. C'est-à-dire, et c'est une autre des problématiques de la pollution plastique, c'est de nombreux micro-organismes vont pouvoir se fixer dessus, ça va pouvoir détériorer aussi la qualité du plastique. Et donc souvent, c'est du plastique qui va ne pas pouvoir être recyclé convenablement. Donc souvent, on conseille plutôt de le mettre dans la poubelle d'ordures ménagères. Malheureusement, c'est quelque chose qui va très peu pouvoir être revalorisé par la suite.
La pollution plastique est souvent associée à l'image d'un septième continent de micro-déchets au milieu de l'océan. Pourtant, les causes et les conséquences de cette pollution sont de notre responsabilité. Et
donc ça, c'est une donnée qui est très intéressante, qui a été mise en évidence par les chercheurs. C'est-à-dire que les déchets qu'on va retrouver, finalement, sont essentiellement liés à nos activités. On ne va pas pouvoir dire c'est à l'autre bout du monde qu'on a pollué et on reçoit les déchets, le résultat de cette pollution lointaine. Non, là, finalement, c'est la pollution qu'on génère ici, en local. Et finalement, alors on pourrait se dire que c'est une mauvaise chose, mais c'est aussi plutôt quelque chose dans un sens de positif, c'est-à-dire qu'au niveau local, on peut agir pour essayer de trouver les solutions. Et justement, c'est le but de ces collectes, c'est de montrer au public, mettre un peu les mains dans le cambouis, se rendre compte des différents types de déchets que l'on retrouve pour les sensibiliser et voir quelles actions on peut mettre en place pour limiter l'arrivée de ces déchets justement dans le milieu marin.
La proximité d'une grande ville représente aussi une menace pour le littoral, et pas seulement du fait des activités industrielles et portuaires. L'un des lieux de collecte du défi plastique se situe d'ailleurs en plein centre de Brest, nous rappelle Christelle Carfontan.
Depuis l'année dernière, nous avons décidé de sensibiliser le grand public aux mégots particulièrement. Et en fait, en partant du centre-ville, place de la Liberté, il y a énormément de mégots. Pour vous donner une idée, en mars dernier, nous avons collecté 12 000 mégots en moins de 2 heures.
L'an dernier, 750 bénévoles s'étaient mobilisés pour la collecte. Cette année, les organisateurs en attendent au moins 500. Mais comme ils aiment à le rappeler, le meilleur déchet reste celui qu'on ne produit pas.
Le reportage d'Olivier Favier à retrouver dans Accent d'Europe. Émission écoutée sur RFI du lundi au jeudi à 19h10, temps universel ou bien en podcast sur le site internet et l'application Pure Radio. La voiture autonome fait son petit bout de chemin en Suisse et commence à apparaître progressivement sur les routes. Depuis le 1er mars, les autorités ont officiellement autorisé le pilotage automatique sur autoroute et on ne compte plus le nombre de projets pilotes avec des véhicules sans chauffeur. Bonjour Jérémy Lanche.
Bonjour.
Alors, dès ce printemps, des robots taxis seront sur les routes près de Zurich. Ça se passe dans la vallée de la Furte. 4 voitures électriques qui vont rouler dans un périmètre d'environ 15-20 km sans aucun conducteur à bord.
Ouais, c'est l'idée, même si au tout début du test, des conducteurs seront quand même présents par sécurité pour vérifier que tout se passe bien. Mais ce sera bien un logiciel qui pilotera ces 4 SUV Nissan Ariya bardés de caméras sur tous les côtés. Si ça marche, le système sera ouvert aux habitants de la vallée. Ils pourront alors commander les robots taxis avec une application. Taxis qui s'arrêteront à un endroit défini à l'avance par les utilisateurs. En 2026, des minibus devraient compléter le dispositif. Alors tout ça, vous l'avez dit, se fait à échelle extrêmement réduite pour le moment. La zone couverte par les véhicules autonomes est très limitée, quelques kilomètres à peine. Et encore, ils ne pourront rouler que sur des routes prédéfinies. Pas question de prendre un raccourci en cas de bouchon. Au-delà de l'expérimentation en tant que telle, ce qui est intéressant ici, c'est de regarder qui participe au projet. Pour le logiciel de conduite, l'américano-chinois WeRide, l'un des leaders mondiaux de la conduite automatisée. Pour l'application utilisateur Yoki, filiale de la Deutsche Bahn. Le canton de Zurich et les CFF, les chemins de fer suisses pour les subventions. Et Amazon pour les services de stockage de données. Pas des petits noms, donc preuve que la Suisse croit au développement de la voiture autonome.
Alors d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire exactement, voiture autonome, hein, Jérémy? Parce qu'avec toute la technologie embarquée dans les véhicules désormais, bien, faut peut-être préciser.
Oui, vous avez raison, on compte 4 niveaux d'autonomisation. Niveau 1, l'assistance à la conduite, c'est le régulateur de vitesse si vous voulez. Niveau 2, l'autonomisation partielle, c'est le maintien de la distance par rapport au véhicule qui vous précède ou l'aide pour garder votre trajectoire. Niveau 3, l'autonomisation conditionnelle. Là, le véhicule assume la conduite, sauf qu'il vous redonne le volant s'il décèle un problème. Niveau 4, l'autonomisation élevée, c'est la même chose, mais en cas de problème, le logiciel de conduite est capable de mettre la voiture en sécurité sur le bas-côté. Niveau 5, l'autonomisation totale, on n'en est pas encore là. Pour le moment, la Suisse a donné son feu vert au niveau 3 et 4 seulement.
Et on l'a dit, ça fait quelques semaines désormais. Est-ce qu'on sait combien de véhicules de ce type roulent actuellement sur les autoroutes suisses?
Oui, zéro. Ce n'est pas une blague. Hein. Les autorités ont bien modifié la loi sur la circulation routière pour la rendre compatible avec la conduite automatique. Mais elles n'ont homologué aucun véhicule autonome. Ça peut paraître surprenant dit comme ça. L'objectif, en fait, c'était de préempter l'arrivée de ces voitures sur le marché et d'avoir une législation conforme. La nouvelle loi autorise aussi le parkage automatisé dans certains endroits, mais là aussi, aucun parking en Suisse n'est prêt à recevoir ce genre de technologie. Alors pour justifier cette évolution express de la législation, les autorités avancent plusieurs arguments. Puisque la grande majorité des accidents sont dus à des erreurs humaines, eh bien la conduite autonome doit logiquement réduire leur nombre. Des voitures en mode automatique, c'est aussi la promesse d'un trafic plus fluide, sans à-coups. Ça, c'est sur le papier, parce que se pose aussi un certain nombre de questions en termes d'assurance, qui est responsable en cas d'accident, le conducteur, le fabricant du logiciel. En termes de sécurité aussi, si votre véhicule est censé se conduire tout seul et que vous êtes sur votre téléphone par exemple, eh bien c'est compliqué de réagir rapidement si vous devez reprendre le volant en cas de pépin.
Jérémy Lange pour Un Monde de Tech. Du théâtre à Paris, en France, avec Penda Diouf qui met en avant la tragédie oubliée de la Namibie à travers le génocide des peuples Herero et Nama dans une pièce intitulée Piste, dans laquelle elle se penche aussi sur sa propre histoire de fille afro-descendante née en France. Autrice déjà de plusieurs pièces, Penda Diouf signe cette fois sa première mise en scène, forte, pleine de poésie. Elle est au micro de Muriel Malouf.
Penda Diouf, vous qui êtes franco-sénégalaise, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes tournée vers la Namibie pour raconter l'histoire de ce pays et surtout une page de l'histoire très douloureuse qui est celle du génocide du peuple Herero perpétré par les Allemands?
Alors, je crois que je suis tombée amoureuse de ce pays et de la Namibie via un athlète qui s'appelle Frankie Frédérics dans les années 90, 95, 96. Et je crois que j'avais un gros crush sur lui lorsque j'étais adolescente. Et c'est lui qui m'a en fait ouvert la porte de la Namibie parce que c'était un pays que je ne connaissais pas du tout. Et je me suis dit, tiens, un pays africain dont je n'ai jamais entendu parler. Et après, j'ai commencé à faire des recherches et c'est comme ça que j'ai découvert le pays qui, à la fois, est un pays... recouvert de désert, 90% du pays est recouvert de désert et moi je suis une grande fan des déserts. Donc ça a été la première chose qui m'a attirée. Puis la deuxième, c'est la partie historique, un petit peu plus sombre, puisque pendant la colonisation allemande entre 1884 et 1915, 75% de la population Herero et 50% de la population Nama ont été tués dans des camps de concentration, notamment pendant cette colonisation allemande.
Et vous en parlez comme une sorte de répétition générale, c'est un peu abrupt de le dire comme ça, mais c'est ça de ce qui va advenir après, c'est-à-dire la Shoah dans la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, effectivement, il y a une sorte de filiation morbide entre ce qui s'est passé pendant la Shoah, pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe, et ce qui s'est passé des décennies plus tôt en Afrique, dans le sud-ouest africain, en Namibie, notamment des expériences scientifiques sur les humains, la question des camps de concentration. Et aujourd'hui, même l'Allemagne s'est beaucoup penchée sur la question de la Shoah en se disant, voilà, il y a un travail de mémoire à faire et qui est vraiment important et nécessaire, bien évidemment. Mais depuis quelques années, ils se disent, mais nous avons aussi eu des colonies et il y a eu aussi un autre génocide. et c'est le génocide en Namibie.
Cette pièce est aussi traversée par votre propre histoire. Vous revenez sur votre enfance, sur votre parcours en tant qu'enfant noir élevé en France, puis jeune femme. De quelle manière, justement, c'est l'intime qui se retrouve à travers cette histoire ?
Alors, il me semblait important, pour parler de la Namibie, n'étant pas namibienne, de me situer aussi dans cette histoire et de raconter en quoi cette histoire, elle faisait écho, d'une certaine façon, à mon histoire à moi, et parce que c'est aussi une histoire coloniale. Et c'est là que j'ai décidé de parler de moi aussi et de raconter un peu ce que les conséquences de la colonisation font au corps, au parcours, aux rêves, aux espoirs d'une jeune fille afrodescendante en France aujourd'hui. Et que la France n'est pas exempte, malheureusement, de clichés racistes, de discrimination envers ces populations racisées.
À la fin de la pièce, il y a une phrase qui apparaît, que ce spectacle est dédié aux victimes des génocides passés et actuels.
Oui, il me semblait important de faire le lien. Ce spectacle parle d'histoire, donc il me semblait vraiment important de faire le lien avec ce qui se passe actuellement, notamment à Gaza. Et je ne me voyais pas du tout parler du génocide aussi dans Namibie, de raconter cette histoire sans faire un lien, même très rapide, même très furtif, avec ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Pour moi, c'était important que l'histoire ne se reproduise pas, justement.
Voilà. Merci, Penda Diouf.
Merci beaucoup.
À Penda Diouf, interrogée par Muriel Malouf pour cette pièce Piste, à découvrir donc au Théâtre 13 à Paris jusqu'à samedi. Paris où il est midi 56, une heure de moins, en temps universel, dans une grosse demi-heure. Ce sera le retour de l'actualité africaine sur RFI. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Clotilde Dumay.
Alors, à la une ce midi.
L'Angola met fin à la mission de médiateur qu'elle jouait dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo depuis 2 ans. La présidence angolaise en a fait l'annonce ce matin. Et puis le président de l'Association des journalistes du Burkina Faso et le coordonnateur du Centre national de presse Norbert Zongo, enlevés ce matin à Ouagadougou. Des hommes en civil disant appartenir au renseignement burkinabé les ont embarqués vers une destination inconnue.
Rendez-vous donc à midi 30, un temps universel pour Afrique Midi. Pour le moment, un nouveau journal international arrive dans quelques minutes, mais d'abord, un peu de musique, des fleurs, le titre de Mira dans la playlist de RFI aujourd'hui.
De ma peine au creux de ta bouche quand on en fait des fleurs, que sur nos bouquets on se couche. Je connais pas la douleur, elle me connaît.
Lauriane Zachary.
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
Alcazar et Al-Sara.
RFI Musique.
Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.